Bonsoir à tous. Alors, avec nous ce soir, Stéphane Matko, qui fait, comme vous le savez, du rhum en Martinique. Et on était bien évidemment obligé de le mettre en prom, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on a enfin pu l'avoir pour réaliser le petit podcast et lui faire l'interview. Bonsoir.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous.
Alors, comment ça va ?
Ben, impeccable, hein, tout va bien, les affaires vont bien, ça va, en pleine forme.
D'accord. Alors, est-ce que je prononce bien ? Est-ce que c'est bien le nom, la bonne marque ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, Stéphane Matko. Donc, j'ai repris les rhums Matko il y a une quinzaine d'années. Et puis, pour booster un petit peu la remontée, j'ai créé Héritier Matko, donc qui est fait partie de l'assortiment Matko. Et donc, c'est la marque qui permet la reconquête du marché.
Bon ben ça, c'est une super chose. Alors, on va commencer par le commencement et après, on va arriver à cette fameuse reconquête. Alors, quel est le parcours professionnel ? Quelles études tu as fait ? Comment tu t'es retrouvé avant d'être dans le rhum ? Dans quel secteur professionnel tu étais ?
Alors, au niveau des études, donc, j'ai un bac scientifique. Puis, j'ai un peu tâtonné. J'ai fait la filière scientifique d'abord donc en maths sup et puis après, plutôt prépa HEC. Donc, ça a été les deux premières années, des années d'hésitation. Et puis, donc, une grande école de commerce française. Et puis, j'ai pris un petit risque. C'est celui de rentrer directement donc, à la Martinique avec mon diplôme. Oui, c'est bien, mais c'est un peu risqué puisqu'il est mieux d'avoir quand même une expérience en Europe pour mieux se valoriser. Mais bon, j'ai passé une dizaine d'années dans le secteur privé. Donc, je changeais d'entreprise tous les 2-3 ans en moyenne jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de changer de vie, en fait, de devenir indépendant justement au travers de la reprise donc, de l'activité Matko. Qui était très en difficulté donc au début des années 2000. Donc le cousin qui s'en occupait à l'époque, qui s'appelait Lucien Matko, donc m'a contacté et nous avons fini par trouver un arrangement pour essayer de redresser l'affaire. Voilà.
D'accord. Alors ça, très intéressant parce que c'est vraiment un héritage, c'est un bien familial.
Oui, oui, c'est quelque chose qu'il tenait de son père. Donc c'est quelque chose... Une chose à laquelle il s'était complètement voué, c'était toute sa vie. Et il voulait que ça évite de couler, quoi. Donc, il avait eu un moment de gloire au début des années 90 où il se vendait beaucoup, beaucoup. Après, il y a eu quelques difficultés et il a commencé à péricliter. Et il ne trouvait pas de solution. Donc, l'idée, effectivement, c'était de maintenir l'activité familiale sur le principe. Voilà. Et donc, j'ai commencé à reprendre ça en 2006. Il était encore là. Donc, il y a eu différentes étapes. Disons que les 10 premières années ont été vraiment très longues parce qu'il fallait tout faire pour maintenir les choses à flot. Il avait des problèmes juridiques, des problèmes financiers, des problèmes commerciaux. Et pour moi, c'était une montagne parce que j'arrivais sans capitaux en réalité. Donc, j'essayais de faire tenir l'affaire avec l'existant. Bon, les choses se sont décantées en 2014-2015 et puis à partir de 2016, j'ai pu commencer à penser à un réel développement.
Alors, on va parler du développement tout à l'heure. Oui. Moi, ce que je veux voir, c'est quelle est l'histoire et de quel produit on parle pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit.
Alors, l'histoire, au départ, c'est celle de la création d'un afro-descendant, Félicien Matko.
Distillerie.
Voilà, c'est ça. En fait, Félicien Matko, donc, qui est le patriarche, en fait, c'est le fondateur, c'est l'enfant de deux esclaves du Lorrain. C'est dans le nord atlantique de la Martinique. À l'époque, ça s'appelait la Grand'Anse. Donc, le papa de Félicien s'appelait Louis. Il avait le matricule numéro 105. Sa maman s'appelait Monique et elle venait directement d'Afrique. Et donc, Félicien, lui, est né libre parce qu'il était le dernier de la fratrie. C'était le 9e enfant. Donc, il est né après l'abolition de l'esclavage. Il est né en 1857.
D'accord.
Donc, par rapport à ses frères et sœurs, bon, c'était un privilège puisque ses aînés, eux, étaient nés sous l'esclavage. Donc, lui, il a pu aller à l'école et il est devenu distillateur. Donc, dans les archives, je retrouve sa trace comme distillateur en 1895.
Bien.
Voilà, donc il fait partie de la première génération des Noirs libres et des premiers entrepreneurs noirs de la Martinique, on va dire. En plus, dans un domaine où il était peu probable que des gens comme lui démarrent, puisque c'est le rhum. Et voilà. Et donc, il a eu une distillerie donc, sur la côte nord Caraïbe, pardon, de la Martinique en 1895. Et puis, comme il était d'une famille nombreuse et que c'était des petites exploitations qu'il pouvait acquérir, donc il y a eu toute une petite nébuleuse de distillerie familiale où il a permis à certains de ses frères d'en avoir une aussi. Et on a recensé jusqu'à trois ou quatre petites unités de production. Et puis, dans les décennies suivantes, les choses se sont stabilisées à trois distilleries, donc deux sur la côte nord-atlantique, une sur la côte caraïbe, et puis qui avaient la possibilité de vendre sur le marché local et à l'export. Donc, il faisait partie des privilégiés de couleur, on va dire. Et puis, ça a tenu donc, en production familiale jusque dans les années 1970.
D'accord.
Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, pour maintenir cette activité, il a fallu trouver un accord avec un autre producteur qui, lui, était de taille beaucoup plus imposante. Donc ça se fait toujours sur le nord de la Martinique. Et donc c'est ce partenariat avec ce même producteur-là que j'ai récupéré, mais que j'ai réorienté vers plus de qualité et pour un réel redémarrage, une pérennisation de l'activité.
Donc
Voilà.
ça veut dire que qu'au moment où toi tu arrives et que tu reprends la distillerie, il faut tout refaire.
Oui, il faut tout refaire parce que les gens, si tu veux, bon, les générations vieillissent et disparaissent. Et mon aîné avait cessé de prévoir l'avenir. Donc j'arrive au moment où on est complètement au creux de la vague. C'est-à-dire qu'à la Martinique, indépendamment des personnes les plus âgées, plus personne ne connaît Matco. Donc les jeunes ne connaissent absolument pas. Les gens autour de la quarantaine ne connaissent pratiquement pas non plus. Donc l'activité tient, mais vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Et donc, dans un premier temps, j'essaye de voir si on peut relancer avec l'existant. Mais l'existant s'est réduit à sa plus simple expression. Il n'y a plus qu'un produit, c'est un rhum blanc. C'est un petit peu mince pour relancer. En plus, il n'a pas vraiment les caractéristiques qui lui permettraient de revenir sur le devant de la scène. Au meilleur niveau, ça paraît un petit peu difficile. Donc, je prends la décision de le laisser tel qu'il est, ce produit, parce qu'il a des adeptes toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais je crée quelque chose à côté qui permettra de renforcer l'offre. Et puis, ça s'appelle Héritier Matco parce que justement, ça permet de raconter une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas héritier comme si moi j'étais entouré de plein de personnes, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de raconter l'histoire du fondateur jusqu'à aujourd'hui,
C'est génial.
de génération en génération. Voilà.
Franchement, c'est vraiment une très, très bonne idée. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu recruter du monde? Est-ce qu'il a fallu changer les gens qui étaient là? Comment ça fonctionne ce milieu?
Non, en fait, j'ai continué avec la même équipe. En fait, ce sont des gens tout à fait capables, hein, de partenaires producteurs et de très très haut niveau. Simplement, il a fallu les convaincre que dans notre intérêt commun, c'est-à-dire dans celui de Matco comme dans le leur, il fallait envisager de réorienter les choses. Ils avaient déjà le savoir-faire et la compétence. Simplement, mon aîné, lui, avait cessé de penser l'avenir, quoi, en fait, hein. Il s'était un petit peu écroulé sur lui-même, et donc il a fallu simplement discuter, convaincre, et puis montrer que j'avais une capacité de création aussi, pour que ça puisse s'enclencher, quoi.
Alors, l'étiquette, parce que moi, j'adore l'étiquette qui est sur le produit et les gens, enfin, c'est quelque chose qui est marquant parce
Oui.
que, bon, pour le rhum, il y a toujours quelque chose. Comment est venue l'idée de ce visuel-là?
Donc, je suppose que tu parles du visuel avec l'ancêtre.
Oui.
Ben en fait, bon, j'ai un petit peu tâtonné, hein, je ne te cache pas. Bon, tout le monde, par ailleurs, met des habitations ou des bateaux, donc c'est un peu cliché. Alors, l'idée, c'était de ne pas faire comme les autres déjà, donc de réussir à être un petit peu singulier pour pouvoir se démarquer. Et puis, donc l'idée est venue peu à peu de mettre un des ancêtres, c'est-à-dire qu'en réfléchissant bien sur les fondamentaux hein, de Matco, savoir ce qui pouvait être la force de Matco, finalement, la force de Matco, elle est avant tout humaine. Et donc le personnage le plus extraordinaire que nous ayons généalogiquement, c'est le fondateur. Quand je dis le plus extraordinaire, c'est pas une petite chose, c'est-à-dire que de la vie même d'anciens, j'ai interrogé un grand-oncle qui aujourd'hui est décédé, mais il y a 5 ans, il m'en parlait comme du plus intelligent de tous, quoi. C'était Félicien Matco, le, entre guillemets, le nègre fondamental de la famille. Et donc l'idée s'est imposée, puisque c'est un usage aussi dans le monde des alcools hein, de mettre un petit médaillon sur l'étiquette avec le fondateur. C'est un usage dans le monde des vins, par exemple. Et donc, j'ai abouti à cette conclusion-là, que ce serait ça, que ce serait lui. Voilà.
D'accord, en tout cas, c'est vraiment une très bonne idée. Après, pour vraiment lancer une nouvelle collection, parce qu'il y a du rhum blanc, du rhum vieux,
Oui.
est-ce qu'il a fallu reprendre des choses qui étaient déjà vieillissantes, trouver des nouvelles formules? Je ne sais pas trop si, je sais pas trop comment on fait du rhum. Est-ce qu'il y a de la canne spéciale? Est-ce qu'il y a, faut faire des mélanges? Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut vraiment être dans le milieu et savoir pour pouvoir faire ce genre de choses.
Oui, non, en fait, je n'ai rien fait de particulier. Vraiment, les méthodes sont restées tout à fait classiques.
D'accord.
Le partenaire producteur a accepté de mettre des produits en vieillissement. On a simplement défini un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il fallait trouver aussi une orientation œnologique. Donc, la caractéristique de Matco, c'est sa douceur, en fait, sa rondeur en bouche. Et donc, on est parti sur ça. Après, pour définir une collection cohérente, j'ai un petit peu tâtonné. J'ai un petit peu tâtonné, c'est-à-dire que la première bouteille, bon, elle avait déjà l'étiquette héritier Matco avec le fondateur, hein, mon aïeul, mais ce n'était pas tout à fait la même étiquette qu'aujourd'hui. Et puis, je n'avais pas encore donné des noms de cuvées. Donc, j'ai avancé un petit peu à tâtons pour me tester, moi, dans le domaine créatif et aussi pour tester les réactions, du public. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à voir qu'une cohérence pourrait se dégager. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, en héritier Matco, on a 4 produits, des cuvées qui portent 2 noms. Donc, tu as héritier Matco en blanc et en vieux Renaissance, et puis en blanc et en vieux Castelmore. Et donc, ce sont des choses qui, peu à peu, se sont décantées, quoi. Mais c'est vrai que pendant quelques années, je savais où j'allais en termes de qualité, mais pour parler d'une cohérence de gamme, j'y suis venu progressivement.
D'accord, bah, franchement très intéressant comme parcours. Alors déjà, ça prouve qu'il faut avoir de la patience dans ce
Oui,
métier. Parce que...
c'est comme un bon rhum vieux, j'ai un peu vieilli moi aussi. Hein,
j'imagine bien, mais c'est vrai que ce sont des métiers vraiment où il faut avoir de la
Oui.
patience. Et c'est avec le temps prouve les choses. Alors du coup, on en arrive à cette fameuse installation sur le marché
Oui.
martiniquais. Comment ça s'est passé? J'imagine que c'est quelque chose qui s'est fait pas à pas avant l'explosion finale, quoi, de l'année 2020, on va dire. Donc comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé d'une façon extrêmement discrète, c'est-à-dire que les vestiges de Matco, l'unique produit qui était encore entre les mains de mon aîné, Lucien, il se vendait quand même dans un certain nombre de magasins, d'hypermarchés parfois, etc. Il avait encore un réseau. Maintenant, c'était des commerçants qui n'avaient plus, bon, je ne dirais pas qu'ils n'avaient plus confiance, mais pour eux, Matco n'était pas un produit important qui allait redémarrer, quoi. Je pense que personne n'y croyait vraiment. Maintenant, ils m'ont quand même laissé rentrer. Donc, j'ai un petit peu, petit à petit, substitué à ce produit qui était vieillissant, j'ai substitué mes créations, donc que j'ai fait rentrer dans le même circuit. J'y suis allé vraiment très méthodiquement et pas à pas. Donc j'ai pris place, mais finalement, toujours d'une façon assez discrète, qui fait que beaucoup de gens n'ont pas vu l'existence de Matko. Pourtant, on est en hyper depuis assez longtemps, mais volontairement, je n'ai pas poussé trop fort pour une raison simple, hein, c'est une question de méthodologie. C'est que tant que tu n'es pas encore certain d'avoir l'image que tu souhaites montrer au public, alors il ne faut pas trop la promouvoir. Alors ça, c'est quelque chose d'assez affolant parfois, parce que tu as besoin de vendre en même temps. Et oui. Quand tu vois que tes ventes baissent, tu as envie de les relancer. Mais en réalité, si tu veux faire un coup d'éclat, il faut être certain que tu as atteint ton objectif en termes d'image, que ta gamme, elle est bonne, qu'elle correspond à tout point de vue à ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, tu fais le lancement. Donc, il y a eu une période de quelques années quand même, hein, au moins 5 ans et peut-être même un petit peu plus, pendant lesquelles j'ai expérimenté sur le marché, mais sans vraiment pousser. Et donc, pendant toute cette période-là, le gros des consommateurs était persuadé que Matko, il n'était pas là, etc. Et c'est quand j'ai mis vraiment j'ai appuyé sur l'accélérateur pour faire apparaître Héritier Matko vraiment de façon très visible aux yeux du grand public, que là, les gens se sont dit, tiens, maintenant, il est en hyper. En fait, on y était déjà. Simplement, on y était en bafeille parce que je n'avais pas encore atteint mon objectif. Donc, le plus difficile, en fait, c'était d'aboutir en termes de création. Je suis peut-être un peu lent et méticuleux, mais je voulais vraiment aboutir à une chose qui me ressemble un peu, quoi, un truc dont je sois fier. Parce que pendant des années, tu sais, je retouchais un peu les étiquettes et chaque fois je la regardais en rayon, je disais « Ah non, c'est pas encore ça que je veux. il y a un truc qui me gêne. » Et donc, je suis resté comme ça pendant quelques temps. Ça a semblé durer une éternité. Par contre, maintenant, quand je vois mes produits, j'ai la conscience tranquille. Je sais que ça représente exactement ce que je voulais. Voilà.
Et c'est très bien. Alors, en plus, c'est un rhum qui a l'appellation d'origine contrôlée.
Oui, tout à fait. En fait, il a l'appellation d'origine contrôlée Martinique. Héritier Matko fait effectivement partie de cette petite élite martiniquaise avec l'AOC. Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé, ça ?
Bien, en fait, de façon extrêmement simple, hein, je n'ai aucun mérite en la matière. Tout simplement parce que depuis la création de l'AOC à la Martinique en 1996, le partenaire producteur, il a été certifié AOC. Donc en fait, en tant que son partenaire, nous avons nous-mêmes bénéficié de cette certification-là. Donc j'ai suivi la tendance dans un certain nombre de domaines de façon assez naturelle. Simplement, il fallait le convaincre, lui, ce partenaire-là, de ma capacité à relancer les choses. Il a été patient, je dois dire. Et puis, il me fallait accoucher du bébé moi-même. Hein. Donc voilà, ça a pris du temps, mais ça s'est fait.
Non, franchement, en tout cas, ça s'est bien fait. Alors déjà, félicitations. Mais
je te remercie, Sabine. Merci beaucoup.
Avec plaisir, j'espère que ça servira d'exemple parce que ça donnera des idées à nos jeunes aussi de pouvoir se lancer dans des produits où on sait qu'il y a vraiment des gens, on va dire des poids lourds qui sont déjà sur le secteur.
Oui, tout à fait.
C'est pas évident justement de se faire son petit chemin. Donc là, l'année, visiblement, ça s'est très très bien passé. Alors, comment c'était ? Là, il faut qu'on
sache. C'était carrément rock'n'roll. C'est-à-dire que je vais te dire, hein, le 24 décembre, j'étais tellement fatigué que je me suis couché à 16h pour faire la sieste, le 24, hein, et je me suis réveillé le 25 à 7h du matin.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Ouais, n'a pas.
Voilà, donc Noël a été réparateur pour moi, ça m'a fait du bien de dormir, mais en gros, l'année 2020, elle a commencé très lentement comme chaque mois de janvier, février, etc., et puis il y a eu un crescendo. Certaines communications que j'avais en préparation, je les ai mises sur le net. Il y a eu le soutien massif de Meryl, la chanteuse.
Oui, ça sera fin.
Voilà, il y a eu toute une série de choses qui se sont enchaînées. Il y a le fait que le site internet que j'avais lancé 2 années avant et qui est le seul site traduit en créole martiniquais, ça a commencé aussi à tourner. Il y a eu un article sur Nofi qui était un petit peu plus centré sur l'afrodescendance, puisque auparavant je faisais des articles qui étaient très bien dans le France Antilles, mais c'était très très neutre en fait. Hein. Je faisais des choses extrêmement neutres et équilibrées. Et puis là, sur Nofi, je me suis un peu lâché, quoi. En fait, j'ai un petit peu parlé en tant que Stéphane Matko. Bon. Et puis, et donc tout ça s'est emballé. Et la deuxième partie de l'année a été absolument incroyable. Donc, mon équipe aujourd'hui, qui était très restreinte, est totalement insuffisante. Donc, elle est en train de s'étoffer. Là, je parle en termes de logistique, hein, logistique commerciale dans les hyper. Donc là, j'ai dû recruter des merchandisers parce qu'avant, je n'en avais pas. Et puis, il faudra que je continue à recruter pour que des gens m'aident parce que, de toute façon, je vais être complètement honnête, il y a eu quand même pas mal de ruptures dans la grande distribution en fin d'année, c'est-à-dire que je n'étais plus capable de satisfaire la demande. Ouais, partout où je passais, le produit était absent depuis une semaine, les gens étaient fâchés, ils cherchaient. Ce qui est vraiment extraordinaire, hein, et là je dois tirer mon chapeau aux Martiniquais et un petit peu aussi aux Guadeloupéens, puisque ça commence à se vendre en Guadeloupe. C'est vrai. Et simplement, j'ai trouvé le partenaire en courant 2020, donc c'est Wine Market, hein, qui est pour l'instant le partenaire exclusif. Et là aussi, ses ventes augmentent assez vite. Mais figure-toi que, il y a eu un certain nombre de ruptures et les Martiniquais font une chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ils se battent pour en trouver. C'est-à-dire qu'ils m'envoient des messages. Et ils me disent, écoute, on a fait 3-4 hyper, où est-ce qu'on peut aller pour être sûr qu'il y a ton produit ? Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. C'est la plus grande récompense des gens qui se battent, c'est-à-dire qu'ils perdent du temps à faire plusieurs magasins pour trouver ce produit-là. Donc là, je leur tire mon chapeau, vraiment, je les remercie. Et j'ai pris une résolution, c'est de faire en sorte qu'ils galèrent un peu moins en 2021. Et que le produit, on le trouve enfin de façon régulière. Mais pour ça, il faut vraiment que mon organisation se mette au niveau. Pour te donner deux exemples concrets, hein. J'assurerai le soutien d'une livraison dans un hyper, je ne vais pas dire l'enseigne, hein, un hyper de la Martinique. Et c'était un jour, un samedi matin, où en principe, les alcools, on n'est pas censé livrer. Et le directeur passe par là, et c'est quelqu'un que je connais depuis un certain temps. Le directeur de l'hyper, il vient me voir, il dit « Oui, Matko, c'est bon, il peut livrer et tout. Il n'y a pas de problème, c'est une urgence, parce que le produit était en rupture. » Et il me prend par le bras, et il me dit « J'ai regardé les chiffres sur mon magasin pendant les mois de décembre, tu étais numéro 1. »
C'est bien, c'est excellent. Donc, comme quoi, quand, à force de rabâcher qu'il faut consommer chez nous, ça rentre dans le contraire et ça rentre pour l'économie.
Ah non, mais ça fait. Oui.
Puisque ça va créer de l'emploi.
Ah non, mais c'est clair. Mais tu sais, même avant de reprendre cette activité-là, donc quand j'étais dans le privé à la Martinique, il y a une chose dont j'étais certain, c'est que tôt ou tard, j'allais avoir une activité en lien avec une production du terroir. Parce que de toute façon, quelque part, c'est une chose dont nous pouvons tous être fiers, d'avoir un savoir-faire local. Et puis, c'est une authentique production de richesse. Parce que, en fait, le commerce d'import, si tu veux, c'est simplement du déplacement de produits. Tandis que quand tu maintiens vivant des savoir-faire locaux, déjà dans la production, en plus, la production, c'est un secteur qui crée beaucoup plus d'emplois parce que ça nécessite un tissu d'entreprise. Et il faut des sous-traitants, il faut des fabricants d'étiquettes au niveau local. Ça crée forcément plus d'emplois et ça crée beaucoup plus de liens entre les gens. Voilà. Exactement. Donc vraiment, je suis content que ça démarre parce que je suis content de pouvoir avoir un business qui va se développer, mais dans ce domaine-là, dans un domaine de production locale, vraiment.
Moi, je suis très contente puisque c'est ce que j'appelle le cercle vertueux. C'est-à-dire que toi, tu produis local, les gens consomment local et ça retourne. C'est-à-dire qu'il faut après employer des gens, les gens vont consommer de plus en plus, ça va faire de plus en plus d'emplois. Et c'est comme ça vraiment qu'on développe vraiment ce qu'on a dans notre département. Franchement, c'est vraiment une excellente chose. En tout cas, encore félicitations.
Merci Sabine, merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Alors, est-ce que il y a un événement ou quelque chose de particulier que tu voudrais faire en 2021? Un objectif qu'il faut vraiment que tu
Mais
arrives à
écoute,
atteindre?
il y a plusieurs choses qui sont déjà en cours. La première chose, c'est que j'ai un nouveau partenaire importateur sur la France. C'est le Rome Store. Puisque jusque-là, j'avais un partenaire, mais avec qui on n'avait pas trouvé la stratégie pour différentes raisons. Donc là, avec le Rome Store, je pense que nous sommes en train de trouver un chemin qui va nous permettre de satisfaire une demande qui est grandissante dans l'Hexagone aussi, puisque beaucoup d'Antillais et même de non-Antillais nous en demandent depuis des mois ou des années. Donc c'est une chose qui est en cours. Donc l'objectif, ça va être ça, de le rendre quand même beaucoup plus accessible qu'il ne l'est à l'heure qu'il est. Donc ça, c'est l'objectif sur la France. J'ai mon premier envoi, ma première expédition qui va arriver ce mois-ci aux États-Unis. Voilà.
Oh, c'est
Donc
génial.
l'objectif, ça va être de trouver un moyen de développer un peu sur les États-Unis, même si on ne va pas envahir ce marché qui est colossal, mais au moins trouver une niche quelque part. Mais en tout cas, on a l'importateur et le bateau arrive au 31 janvier. Donc ça, c'est le deuxième chantier qui est en cours.
Et en plus, on a des artistes entiers qui travaillent là-bas. Donc pour les clips et tout ça, on pourrait peut-être passer un de ton
Voilà.
petit mot pour placer les... Ça peut être
Absolument.
sympa.
Troisième chose, alors sur le plan de la création, je pense qu'en fin du premier trimestre 2021, il y aura un nouveau Rome vieux. Voilà. Il y a quelque chose qui est en vieillissement depuis quelque temps, donc ce sera un produit qui sortira un petit peu des sentiers battus. Par rapport aux rhums vieux héritiers Matco actuels, qui sont très bien, mais qui sont relativement dans le standard, en fait, hein, qui ne sont pas des produits réellement exceptionnels, même s'ils sont très bons. Là, j'ai l'idée depuis plusieurs années de sortir quelque chose d'un peu spécial, avec une durée de vieillissement très importante, puisque jusqu'à présent, ma durée de vieillissement maximale, c'est du 4 ans. Donc là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, sachant que les marques qui peuvent sortir un rhum vieux d'exception se bonifient quelque part. Hein. C'est un petit peu une marque de prestige d'avoir un rhum vieux exceptionnel. Donc on va essayer de
C'est
sortir
ça.
ça pour le mois de mars à peu près. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est
Oui?
une bonne chose, surtout si on pense vraiment à monter en gamme au niveau du rhum. Après ça, faudra faire la concurrence avec la
Oui,
Jamaïque.
oui, oui,
Mais
oui.
qu'on est en rhum vieux, parce que c'est ce
Oui.
que j'avoue. Je suis pressée de pouvoir
D'accord, mais
goûter
avec
tout ça.
plaisir, tu seras la première invitée. Tu feras partie des premiers invités.
Ah, bah
Voilà.
c'est gentil. Alors, s'il y a des en Guadeloupe, c'est possible qu'on se voit en
Ah oui,
Guadeloupe
bien
ou
sûr,
pas?
oui. De toute façon, bon, il faudra que je rende une petite visite à mon partenaire guadeloupéen, le wine market. Et donc, oui, pourquoi pas, oui, avec plaisir.
Ah, bah c'est parfait, puisque là, pour 2021, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place
Oui.
dans les deux départements. On va relancer nos départements. Donc, je pense que vers la fin d'année, peut-être, on espère, hein, si au niveau du Covid,
Oui.
ça se calme un petit peu. Je pense que on va reprendre vers juillet. Donc, après, il y aura peut-être des gros événements comme ça pour faire tourner. Ça peut être
Avec
sympa. Ça peut
plaisir,
être un
avec
truc
plaisir.
sympa. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Un petit mot pour
Bien,
la
je
fin?
salue nos frères guadeloupéens, puisqu'ils vont être de plus en plus nombreux à découvrir Matco. Hein, donc, c'est avec plaisir. Hein, c'est y en a l'autre, c'est en l'homme qu'à laver l'autre. Voilà. À bientôt.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que ça va encore aller super loin, le rhum Matco, là, qu'on puisse vraiment percer aussi de ce côté-là. C'est bien qu'on ait un
Oui,
pied
de toute
partout,
façon, oui. Et
juste.
puis les Guadeloupéens réclamaient sur les réseaux depuis plusieurs années. Donc, c'est chose faite, c'est en train de se
Moi,
faire.
la première. Donc, comme ça, quand je vais boire mon premier verre, je vais aller en parler vite fait à Canalys. Et comme ça, on pourra inciter les gens. Bien sûr, on va
Oui,
rester raisonnable
avec
en l'entrée.
modération.
Bien évidemment, avec modération, exactement. En tout cas,
Ben,
merci beaucoup
merci à
pour
toi,
cette
Sabine.
petite
Merci
intervention.
beaucoup.
Et bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois avec un autre Proms, bien évidemment. En plus, on en a encore plein, plein à vous présenter. Donc, à bientôt. Et en attendant, rendez-vous tous les lundis à 16h sur Canal 10.
Au
Au revoir à
revoir.
tous.